Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16. Et mon texte aujourd'hui se trouve à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous allons considérer ensemble la haine pour Christ, la haine contre la personne de Christ et son œuvre, et pourquoi cette haine existe. Ici, Christ dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc, même s'il y a une division ici dans le chapitre, nous savons que dans l'original, il n'y avait pas de division. Les éditeurs ont placé ces chapitres pour nous aider à nous retrouver dans la Bible et pour la lecture publique. On peut facilement dire aux gens, il faut tourner à Jean chapitre 16 et on peut facilement nous retrouver. Mais ici particulièrement, lorsque ça commence avec « Je vous ai dit ces choses », on doit toujours aller en arrière pour voir le contexte et nous ne devons pas oublier que c'est effectivement de cette haine du monde contre Christ qui était son sujet. Par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 18, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, telle est la dépravation du cœur de l'homme. Et ça serait aussi notre cas, si ce n'est la grâce de Dieu qui tourne nos cœurs à Christ, à la repentance. Parce que on va tous vouloir servir notre moi. Nous sommes égoïstes. Que de se soumettre à quelque autorité que ce soit. Et surtout, du fait que Christ est Dieu dans la chair. Voilà le point d'offense pour les Juifs. Ils ne pouvaient pas croire que ce Jésus de Nazareth était Dieu dans la chair. Donc, c'est pourquoi ils l'ont crucifié. Mais Christ dit ici à ses disciples, ces choses à faire, qu'elles ne soient pas pour eux une occasion de chute, ou bien pour nous aussi. C'est écrit, ils vous excluront des synagogues ici dans la chair, et ça c'est son église, jusqu'au point de faire mourir ceux qui croient en lui, si cela était possible. Heureusement, cette décision ne réside pas avec les hommes. C'est Dieu qui a déjà prédéterminé nos jours que nous devons vivre sur cette terre, et donc, personne ne peut mettre la main sur un des siens si ce n'est Dieu lui-même qui le permet. Pour moi, c'est vraiment réconfortant parce que ça fait plus de 34 ans maintenant que je prêche l'évangile de Christ, ce même évangile que je vous annonce. Et je peux dire à travers le temps, il y en a qui se sont vraiment fâchés contre moi, même voulant m'expulser de leur pays à cause de ce message. Mais je dois dire que jusque-là, personne n'a pu mettre la main sur moi pour me faire mourir. Pourtant, ici, Christ est en train de parler à ses disciples, d'anticiper que cette haine pour Christ soit si intense que ils allaient mettre les disciples à mort. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Si vous allez en arrière pour lire l'histoire des disciples, vous allez trouver que chacun de ces disciples sont morts. Chacun est mort, martyr. Ils ont versé leur sang pour le nom et le témoignage de Jésus-Christ. Donc, ce que Christ est en train d'annoncer ici était une réalité pour chacun de ses disciples. Et voilà le verset 3, Christ dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. On ne peut pas nier le Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu et en même temps dire qu'on adore Dieu. Pourtant, il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est impossible. Christ dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, on ne peut pas appeler enfants de Dieu ceux qui nient le Seigneur Jésus en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même, et en même temps dire qu'on est enfant de Dieu. Alors Christ dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, quand il dit l'heure sera venue, il parle de son heure où lui-même il devait mourir à la croix, aux mains de ces hommes impies, selon le propre dessein de Dieu, le Père, mais néanmoins mourir, verser son sang. Il dit, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alors, Christ est en train de préparer ses disciples pour sa mort, mais aussi pour sa résurrection et son ascension. Parce qu'il ne devait pas rester physiquement toujours avec nous. Donc il est monté au ciel, c'est là où il est assis maintenant, ayant fini, complété l'œuvre du salut à l'égard de son peuple. Mais comme il a dit aussi dans Jean chapitre 15, il ne laisse pas ses enfants ou bien ses disciples orphelins, mais il a envoyé son esprit afin que son esprit réside avec ceux pour qui il est mort. Et non seulement réside avec, mais réside en ceux-là. Ce qui fait que ceux qui lui appartiennent ont l'esprit du Christ en eux. Ça, c'est vraiment un mystère merveilleux, le fait que Christ n'est pas au loin, quoique nous ne le voyons pas physiquement, néanmoins, son esprit est en chacun de ceux qui l'appellent. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. La seule façon de connaître le Père et ensuite son Fils, c'est à travers l'Esprit qui révèle le Père en nous et son Fils. Il y en a qui lisent cette Bible, cette même Bible que nous lisons, mais qui ne connaissent pas le Père et Christ. Ils voient dans la parole beaucoup d'autres faits qu'ils trouvent intéressants. Ils prêchent le moral, ils disent aux gens comment il faut vivre, comme si la Bible était un livre d'instruction sur la vie. Mais où sont ceux qui voient à travers la Bible la gloire de Dieu en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ? Et je ne dis pas simplement dans certains versets, mais du début jusqu'à la fin. Je peux vous dire que la seule manière de connaître le Père et le Fils à travers la parole, c'est par l'Esprit de Dieu qui est l'auteur de ces écritures que nous sommes en train d'étudier. Mais il faut que l'Esprit nous ouvre les yeux pour connaître Christ et le contempler dans toute sa gloire. Alors, il y a des enseignements que Christ réservait au temps voulu par Christ. Nous pouvons peut-être nous poser la question, mais pourquoi nous lisons la Bible depuis, mais c'est maintenant que nous commençons à constater que chaque verset, chaque mot concerne le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi pas avant? C'est Christ qui a dit, je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous, chaque chose en son temps. Et maintenant qu'il est en train de préparer ses disciples pour son départ, c'est maintenant qu'il leur donne l'instruction qu'il leur faut. Je compare ça à un père qui se prépare pour aller en voyage. Et peut-être que les enfants courent ici et là. Et puis, le père les appelle à côté pour dire, bon, voilà, tu dois partir, mais je ne voudrais pas que vous vous inquiétiez. Je reviendrai, mais entre-temps, voilà ce qui doit se passer. C'est ce que Christ est en train de faire avec ses disciples. Il continue dans le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'est vrai que Christ est venu afin de sauver ce peuple que le Père lui a donné depuis l'éternité, et c'est pour eux que le Père l'a envoyé, mais il ne devait pas rester toujours sur cette terre. Une fois cette mission était fini, il devait retourner à son père, où il était avec lui depuis l'éternité. Donc, il leur dit ça, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ce que le Seigneur Jésus-Christ avait en vue depuis sa conception jusqu'à sa mort et son ascension, c'était la gloire de son père. Celui qui m'a envoyé. Mais il ne devait pas retourner à son père tant que sa mission n'était pas achevée. Voilà, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'il est venu et qu'il a achevé ce que le père lui a envoyé faire, et maintenant il est retourné auprès de son père. Cela me rassure du fait que cela signifie que le salut maintenant est complet en lui. Que ce qu'il a accompli à la croix, celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père, maintenant, a approuvé. Et il est satisfait. Ce n'est pas à nous de satisfaire le Père, mais c'est Christ qui l'a satisfait. Afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs qu'il est venu sauver. C'est pourquoi il a pu dire, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il dit, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Vous voyez, jusqu'à ce point, même les disciples ne comprenaient pas tout ce qui devait se dérouler. Même jusqu'à sa mort, ils ne comprenaient pas exactement comment cela devait se dérouler. Dans leur pensée, oui, Christ parlait des choses nécessaires, mais il ne comprenait pas comment tout cela devait s'appliquer en peu de temps. Et c'est comme nous. Nous lisons la Bible et nous voyons les choses écrites ici au sujet de Christ, mais on ne peut pas dire que nous saisissons réellement tout ce qui est écrit. Nous avons besoin de l'Esprit du Christ de continuer à nous enseigner, nous éclairer. Donc il dit ça, aucun de vous ne me demande où vas-tu. Pour eux, ils ne voyaient que Christ encore devant eux. Pourtant, en peu de jours, ils devaient donner sa vie. Ils allaient le voir crucifié et eux-mêmes dispersés. Christ a dit ça selon la prophétie de l'Ancien Testament, frappe le berger et les brebis se dispersent. C'est comme ça. Mais il ne les a pas laissés disperser. À sa résurrection, il est revenu pour les ramener auprès de lui. C'est une belle image du salut qui est en Jésus-Christ. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais puisqu'il a accompli le salut parfaitement, il ne peut perdre aucun de ceux pour qui il est venu. Et vous voyez notre ignorance de notre côté. Personne ne me demande où vas-tu. C'est comme quand nous lisons la parole. On lit des écrits concernant le Seigneur Jésus-Christ, mais on n'arrive pas réellement dans la profondeur. Personne ne demande, mais quel est le sens de ce verset par rapport à Christ? Où il est? Pourquoi il est venu? Où il est maintenant? Ce sont des profondeurs de la Bible que seulement l'Esprit de Christ peut nous enseigner. Donc, dans verset 6, il dit, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » En parlant de la haine du monde contre Christ, mais aussi contre eux, et tout ce qui devait s'attendre, ils devaient s'attendre, c'est tout cela, ça les rendait tristes, sans comprendre que c'était le chemin qu'il fallait pour Christ de traverser pour que leur salut et le salut de tous ceux que le Père a choisi soit accompli. Je peux dire que c'est vrai quand on lit dans la Bible concernant la manière qu'ils ont traité Christ. Il y en a, et même peut-être nous-mêmes, on était dans la tristesse d'imaginer qu'on pouvait traiter le Fils de Dieu comme ça, sans savoir ou réfléchir sur le fait que si Christ est mort, et je crois qu'il est mort pour moi, donc ce sont mes péchés qui l'ont cloué à la croix. Quand je considère ça, ça me rend triste de réfléchir là-dessus. Mais la raison qu'il est mort, c'est afin d'accomplir le salut, et une fois que cela est révélé, et je vois Christ élevé, même dans ses souffrances et sa mort, c'est ça que l'Esprit tourne maintenant à ma joie, quel que soit le fait que ça a exigé sa souffrance, mais la joie est de savoir qu'il devait ressusciter. C'est monter au ciel, là où il est assis. Peut-être assis signifie que l'œuvre est achevée, est accomplie. Et voilà maintenant la joie. Et pour eux, à ce moment-là, ils ne voyaient que la tristesse en réfléchissant à tout ce qu'ils disaient. Et nous allons conclure pour cette étude dans le verset 7. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Là, il parle de sa mort. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que sans la mort de Christ, il n'y a pas de salut. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'était nécessaire que Christ s'en aille dans ce sens-là, qu'il meure, qu'il donne sa vie à la place de ses disciples. Autrement, on n'aurait pas le salut. Si Christ serait venu dans le monde, par exemple, et a vécu une vie parfaite à travers son obéissance à la loi et la justice de Dieu, mais qui ne s'est pas donné en mort, s'il n'a pas donné sa vie par l'effusion de son sang, il ne devait pas avoir de salut, il n'aurait pas de salut. Ça allait prouver simplement que, oui, Christ est Dieu, et il est parfait, et lui seul, il a pu obéir parfaitement à la loi, mais c'est comme un pont qu'on va construire. On peut bien construire le pont jusqu'au milieu du feu, mais si on n'achète pas le pont, à quoi ça sert? Christ est allé jusqu'au bout. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que, à travers sa mort, maintenant, c'est là que le salut était achevé. Parce que pour être le substitut, il devait satisfaire les deux aspects de la loi, les préceptes de la loi, qui exigeait une obéissance parfaite à la loi de Dieu, mais aussi la mort pour payer la dette. Ces deux aspects étaient nécessaires. Alors c'est pourquoi Christ dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et ensuite, il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'était pas déjà dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle Christ au cœur, même dans ceux de l'Ancien Testament. L'Esprit du Christ était en eux. C'est ce que l'apôtre Pierre a écrit dans son épître. D'ailleurs, personne ne peut croire en Christ si ce n'est à travers l'Esprit de Dieu en eux, que ce soit dans l'Ancien Testament ou depuis l'Ancien Testament. Mais ici, quand il dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, il parle de l'effusion du Saint-Esprit comme c'est passé à Jérusalem, le jour de Pentecôte, qui était le témoignage aux disciples et aux croyants à l'époque que, qu'effectivement, Christ, non seulement est mort et ressuscité, mais il est monté au ciel, et c'est par cet esprit maintenant, les aliments qui devaient aller dans le monde et prêcher ce Christ dans le monde. Mais il fallait d'abord que Christ accomplisse sa mission. Autrement, quel message est-ce qu'on aura pour aller annoncer? Le message que nous avons annoncé et que c'est l'Esprit qui nous anime à prêcher ce message, c'est que le salut est achevé et le salut est complet dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que l'Esprit de Dieu, de Christ, donne à ceux qui sortent pour prêcher Christ et Christ crucifié. Et c'est le message que Dieu daigne bénir pour attirer les pécheurs que Christ a sauvés à lui. Il y en a qui veulent toujours débattre avec nous pour dire oui, mais ça ne suffit pas. Simplement d'aller prêcher Christ et Christ crucifié. Il faut aussi des standards, il faut des règles et des principes de vie qu'on doit enseigner aux gens. Vous savez, quand vous raisonnez comme ça, vous êtes en train de dire que l'œuvre de Christ ne suffit pas, non seulement pour sauver, mais pour garder en lui, ceux pour qui il a payé la dette, c'est ça que vous voulez bien dire, ou bien de dire que la puissance du Saint-Esprit ne suffit pas pour garder un pécheur sauvé en Christ, il faut maintenant venir ajouter encore des règlements et autres principes. Vous ne voyez pas comment cela est un message qui minimise l'œuvre de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, notez le mot, le consolateur, celui qui vient à côté pour aider quelqu'un qui est faible dans sa marche, c'est le consolateur qui le soulève, c'est le consolateur qui le dirige. Je ne suis pas arrivé à comprendre ce message de Christ que je suis en train de vous annoncer maintenant à travers mes propres études ou mes recherches. Dans mon cœur à l'époque, j'avais déjà ma théologie et je suis sorti maintenant pour annoncer ce que j'ai appris des hommes. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi à travers son esprit. C'est ainsi que je sors maintenant pour prêcher ce Christ. Et je sais de quoi je parle parce que non seulement c'est révélé ici dans les Écritures, mais c'est l'esprit de Dieu en moi qui me dirige. et qui m'empêche de courir avec le monde, soit séculaire ou religieux, mais de rester attaché à Christ et continuer à l'annoncer dans toute sa puissance. C'est l'Esprit qui m'a révélé Christ, c'est l'Esprit qui me garde. Et je sais que c'est le même Esprit qui anime chacun pour qui Christ est venu. Alors c'est pourquoi Christ dit, il est avantageux que je m'en aille, que j'achève tout ce pourquoi je suis venu. Et si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Or, ici nous voyons dans ce passage, notre thème c'est la haine pour Christ. Et nous voyons plusieurs aspects ici. Premièrement, que le Seigneur, dans les versets 18 à 25, dans le chapitre précédent, prévenait ses disciples de la haine dont ils devaient être les objets de la part du monde, qui devait d'abord et ensuite le monde est ce qui représente Christ dans le monde, c'est-à-dire nous. Je sais que ce passage était écrit premièrement touchant les disciples eux-mêmes à l'époque, mais je dois dire que tous ceux qui se lèvent pour annoncer ou prêcher ce Christ de la Bible distinctivement peuvent anticiper cette même haine de la part du monde. Et notez bien qui étaient les ennemis. Ce n'est pas les gens dans la rue qui n'ont aucune connaissance de la Bible, de Christ. On rencontre de temps en temps de tels gens, ils n'ont aucune opinion au sujet des choses de Dieu ou de Christ parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement. Mais ils n'ont jamais passé le temps sous l'écoute de la religion ou bien de dire des hommes. Ils sont simplement là, perdus. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont adressés ici parce que dans le verset 2, nous lisons, ils vous excluront des synagogues. Si quelqu'un peut s'asseoir dans des assemblées modernes aujourd'hui et participer à tout ce qui se passe au nom de Dieu et même au nom de Christ, mais que ce n'est pas l'Évangile, et quelqu'un peut s'asseoir là et tolérer tout ce qui se passe sans susciter la haine de ceux-là par un témoignage clair et net de Christ, c'est parce qu'ils n'ont jamais réellement connu ni le Père, ni Christ. C'est comme ça que Christ dit dans le verset 3, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Donc, on peut anticiper. Et je sais, ce n'est pas facile. On se rassemble en petit nombre. Parfois, peut-être c'est quelqu'un qui est seul dans sa maison. Et le monde s'étonne, mais il y a tant de lieux d'assemblée, de lieux de culte, et vous allez me dire que tous ceux-là sont dans l'erreur, et que vous restez maintenant à part, parce que vous ne voulez pas vous réunir avec eux. Ce n'est pas que nous ne voulons pas nous réunir avec eux, mais la réalité, comme moi-même j'ai vécu en plusieurs cas, c'est qu'ils ne veulent pas de vous. Même si vous allez vous asseoir dans leur milieu et ouvrir la Bible et on donne à chacun la parole, je sais que si vous témoignez du Christ tel que l'Esprit le révèle ici dans les Écritures, en peu de temps, vous serez chassés. Ils vont s'approcher de vous pour dire, mais il serait mieux que vous en alliez au lieu de rester ici et troubler nous qui sommes ici pour apprendre. Ils pensent qu'ils sont en train d'apprendre. J'ai vécu cela plusieurs fois dans ma vie. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à part. Je sais que c'est ce qu'il fait avec plusieurs à travers le monde, parce qu'on ne peut pas marcher ensemble avec ceux qui détestent et qui haïssent le Christ de la Bible. On peut se demander, mais pourquoi ceux qui sont religieux ont une telle haine pour Christ? La réponse est simple. C'est parce que les hommes veulent faire les choses pour leur propre gloire. Ils vont accepter un message qui dit que Christ a déjà fait ce qu'il peut pour votre salut, mais c'est à vous maintenant de prendre votre décision. Les hommes aiment un tel message parce que ça met le pouvoir entre les mains de l'homme. Et voilà ce que la chair déchue cherche, la gloire. Mais dire aux hommes qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour satisfaire à Dieu, et que ce n'est pas par votre propre obéissance, mais c'est l'obéissance de Christ seul, que Dieu impute maintenant au compte de ceux pour qui Christ est mort. Quand on dit cela à les gens, sans que l'esprit n'agisse dans le cœur, les gens réagissent. Et si vous ne croyez pas, chaque fois, dans chaque situation où les gens veulent insérer maintenant la décision de l'homme, et bien le libre arbitre, en quelque sorte, dit que oui, c'est en partie l'œuvre de Christ, mais il y a aussi l'homme qui doit faire sa part. Chaque fois que vous entendez cela, que vous corrigez, ou dites non, toute la gloire revient à Christ, vous allez voir. Parce que les gens sont rebelles de nature. Tel est notre cas. Et je serai toujours en train de suivre cette voie si ce n'était l'Esprit de Dieu agissant en moi qui m'enseignait autrement. Alors nous voyons exactement ici ce que le Seigneur donne comme enseignement pour prévenir ses disciples. Mais nous voyons deuxièmement comment ici il leur dit la manière que le monde doit les traiter. Ça, c'est un monde qui se croit déjà agréable à Dieu. Le monde est rempli de tels gens. Ah non, je suis croyant, je suis chrétien. Et ils croient basé sur une décision faite, comme ici, les synagogues, c'était les juifs. Ils se basaient sur leur héritage pour dire que non, nous sommes bien. Nous sommes pas comme le monde, les païens. Nous avons la loi, nous avons la parole. Et nous nous mettons à suivre tout ce qui dit la parole. Donc ils se croyaient déjà agréables à Dieu, mais c'est ceux-là qui les excluent, ils vous excluront des synagogues, Christ dit. Et il dit jusqu'à tel point dans le verset 2, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Voilà jusqu'à quel point était leur aveuglement et leur incrédulité. Et troisièmement, nous voyons ici pourquoi. Pourquoi ils feront ces choses? C'est clair, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent chrétiens, qui se rassemblent avec leur dénomination et vous dites, non, mais nous sommes dans une nouvelle époque, donc il n'y a pas de gens qui sortent, qui se disent chrétiens, qui pour tuer d'autres chrétiens. Mais ouais, la haine n'est pas simplement manifestée par la mort physique, en mettant quelqu'un à mort physiquement, mais la haine est considérée comme le meurtre, parce que si quelqu'un hait son frère, c'est comme ils ont tué un tel. Et je dois dire que même si les gens ne le disent pas ouvertement, ceux qui sont attachés à leurs œuvres tout en disant qu'ils croient en Christ, mais qui s'opposent à ce message qui lui donne toute la gloire, cette haine est comme le meurtre. Et ça, c'est partout dans le monde. Vous serez chassé du milieu d'eux. Vous serez chassé, vous serez haï à cause de Christ. Alors, cette haine, c'est Dieu seul par sa grâce qui peut l'enlever et qui peut conduire nos cœurs à lui. C'est par sa grâce que je suis ici aujourd'hui en train de vous annoncer le Christ tel qu'il est dans les Écritures. Donc, comme Christ a dit à ses disciples, c'est afin que nous ne soyons pas, ou cela ne soit pas pour nous une occasion de chute. Je sais que il y en a une fois que le Seigneur commence son œuvre dans le cœur, en vérité, nous imaginons peut-être que tout le monde va vouloir entendre ce message qui nous égaye, qui nous donne la joie. Mais avec le temps, nous reconnaissons que ce n'est pas le cas. C'était ce que j'ai dû expérimenter moi-même lorsque le Seigneur a ouvert mon cœur. Un temps où je ne cherchais même pas, je pensais déjà être bien dans ma place et avec ce que j'ai appris à l'école théologique, je m'imaginais que j'avais la vérité. Pourtant, il a fallu que Dieu me montre que je n'étais rien et que j'étais perdu jusque-là. Mais lorsqu'il a ouvert mes yeux pour contempler que toutes ces paroles concernaient le Seigneur Jésus-Christ, j'imaginais que les gens seraient dans la joie d'entendre mon témoignage. Mais c'était le contraire. Les gens ne pouvaient pas supporter le témoignage que j'ai annoncé. Parce que ce n'était pas un témoignage qui les laissait tranquilles. C'est comme si les gens sont endormis dans une chambre et vous rentrez et puis brusquement vous allumez la lumière. Voilà, les gens sont en train de dire non, non, éteignez la lumière. Ils ne veulent pas, ils veulent toujours rester endormis. Beaucoup sont comme ça. Ils préfèrent s'endormir que de considérer leur état de perdition et considérer que toute leur profession n'est rien. Et qu'il leur faut la grâce de Dieu en Christ pour être sauvés. Entièrement la grâce de Dieu. Sans rien ajouter de la part de l'homme. Et je remercie le Seigneur que même si cela scandalise d'autres, pour ceux qui appartiennent à Christ depuis l'éternité, élus en lui, et pour qui Christ est venu dans le monde, donner sa vie, et maintenant révélé par l'Esprit dans le cœur, pour ceux-là, c'est vraiment une consolation. Et si vous voulez savoir qui sont ceux qui sont vraiment en Christ, en qui Christ s'est révélé, il suffit d'annoncer Christ dans toute sa gloire. Et remarquez les réactions. S'il y a des hésitations, s'il y a des gens qui disent oui, mais on peut savoir que jusque-là, l'Esprit du Christ ne s'est pas révélé en eux. Peut-être, comme moi, j'étais un de ceux-là pour un temps. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, tout a changé. Donc, il se peut que certains qui s'opposent maintenant comme Saul, l'apôtre Paul, Baruch, dans son opposition à ce message de Christ, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, tout a changé. Et si quelqu'un persiste dans son opposition à Christ et à ce message, et qu'il meurt dans cette rébellion, c'est évident qu'il n'a jamais été désigné au salut, il n'a jamais été à Christ. Et il est mort comme il est né, dans la perdition. Alors je remercie le Seigneur pour son œuvre, je remercie le Seigneur pour sa parole, je remercie le Seigneur pour son esprit qui continue à diriger nos cœurs vers lui. Amen.